entre love et amour, distance linguistique, géographique, émotionnelle d'un continent à l'autre. Comment aimer, love, amour et mille autres mots pour le dire.
Pascal Paradou.
Les histoires d'amour finissent mal en général, nous dit l'adage, et le grand William Shakespeare ne dit rien d'autre dans son Roméo et Juliette. Avec Chandala l'impur, libre adaptation de ce chef-d'œuvre de l'amour empêché, Kumaran Vallavan place le drame en Inde, au pays des castes. Bonjour Kumaran Vallavan.
Bonjour Pascal.
Vous parlez de plagiat à propos de ce projet de spectacle, mais cela s'appelle surtout un déplacement géographique, temporel, on n'est plus du tout au XVIe siècle, et politique. Même.
J'appelais ça un plagiat parce que c'était un petit clin d'œil, parce que vous savez, à l'origine, l'histoire était un récit italien que Shakespeare a plagié et qu'il a fait des inventions qui correspondent à son époque. Donc je voulais être un peu dans la même veine. Et surtout, le mot plagiat a changé de sens seulement au 19e siècle après Balzac, où c'est devenu péjoratif. Mais à l'époque, en tout cas, c'est un grand professeur de français qui me l'a dit, plagiat voulait dire aussi prendre une partie de l'œuvre de quelqu'un pour lui faire honneur.
Donc un hommage à Shakespeare que votre Chandala l'impur. On se retrouve en Inde aujourd'hui, dans un pays où s'aimer entre castes différentes n'est pas tout à fait simple. Cette histoire de Roméo et Juliette que l'on dit universelle, est-ce qu'elle est connue en Inde, ou est-ce que l'universel s'arrête finalement aux frontières du monde occidental?
Ben, c'est connu en Inde comme c'est connu en France. Beaucoup de gens pensent que c'est une histoire d'amour. Roméo tombe amoureux de Juliette, alors que c'est beaucoup plus complexe que ça. D'abord, Roméo ne tombe pas amoureux de Juliette au départ. Il tombe amoureux de Rosaline, une autre jeune fille, la cousine de Juliette. Et je crois pas que c'est juste, on peut pas réduire Roméo et Juliette à une histoire d'amour. C'est le récit des désirs de la jeunesse face à un monde plus désenchanté, plus rentré en ordre, alors que cette jeunesse, l'adolescence, parce qu'il ne faut pas oublier que les Roméo et Juliette sont adolescents dans la pièce de Shakespeare, c'est vraiment l'ardeur, le désir de vie qui est confronté au mur d'un système.
Est-ce que l'adolescence et l'amour sont universels?
Je crois qu'on peut dire que c'est l'humain. Et partout, dans tous les pays, au-delà des frontières, il y a des êtres humains qui vivent les mêmes drames, les mêmes histoires. C'est pour ça que nos mythes rejoignent. Et Roméo et Juliette, pour moi, est un mythe dans ce cas, qui devient du coup universel.
Comment on dit amour en Inde, sachant qu'il y a quoi, un peu plus de 200 langues maternelles?
Je crois qu'il y a à peu près 2000 langues et dialectes en Inde, donc ça va être difficile de tous citer, je ne les connais pas tous. Je vais le dire en tamoul parce que c'est une adaptation en tamoul, donc « kadal ».
Kadal.
Kadal.
Dans le spectacle, vous dites d'autres mots. Vous dites oui. Ishq.
Ishq, mohabbat, kadal, amour, lao. Et quand on était à Bruxelles, on disait lied. Enfin, c'était en flamand. Donc, selon les pays, on ajoute aussi les mots, l'amour dans cette langue.
Et en tamoul, puisqu'on reste sur le spectacle et sur votre langue maternelle, Vallavan Kumaran, est-ce que on dit aimer? Est-ce que c'est le même mot pour les choses, les hommes, les dieux, ou est-ce qu'il y a des mots différents? Dans certaines langues, il y a des mots très spécifiques pour la nature de l'amour que l'on porte.
En tamoul, le verbe vient exactement du mot kadal, qui veut dire amour, donc on peut l'utiliser que pour faire une déclaration d'amour. On ne peut pas dire j'aime une fleur en tamoul. On ne peut qu'aimer quelqu'un. Donc c'est spécifiquement un verbe pour dire l'amour, et la littérature tamoul, il y a énormément d'écrits classiques anciens sur l'amour. Il faut dire que c'est un pays qui a célébré l'amour à une époque, jusqu'à qu'on arrive à des systèmes plus rudes. Contrairement à ce qu'on pense, c'est pas, le progrès n'est pas une ligne droite sur laquelle on avance. C'est des montées et des descentes.
Et pour dire théâtre, quel est le mot en tamoul?
On dit nadagam, mais malheureusement, au pays où je suis, au sud de l'Inde, aujourd'hui, nadagam signifie les séries télé. Parce qu'il y a la révolution du cinématographique qui s'est passée en Inde est vue comme la forme plus avancée, l'étape suivante le cinéma étant l'étape suivante du théâtre. Donc les gens ont un peu abandonné le théâtre, dans un certain sens. Et ce mot est maintenant utilisé pour dire la série télé, ce qui explique du coup la situation actuelle du théâtre au sud de l'Inde. Je parle du théâtre contemporain.
Le théâtre est donc un art de résistance chez vous?
Ben, je dirais que c'est au sud de l'Inde, à Pondichéry, au Tamil Nadu, c'est l'état de Tamoul. C'est un art d'abord de sacrifice, de courage, de self-dedication. Je ne sais pas comment on dit en français.
Self-dedication.
Ça veut dire qu'on fait carrément don de soi à cet art parce qu'on...
Un sacerdoce,
exactement, merci. Parce que ça devient extrêmement difficile de faire du théâtre dans cette condition. Et du coup, faire du théâtre, c'est vraiment un sacrifice, un engagement, voilà. C'est un engagement.
Et une passion quand même.
Mais s'il n'y a pas de passion, il n'y a pas tout ça.
Faire du théâtre ici, à Pondichéry ou ailleurs, c'est notre coup de fil hebdomadaire. Ailleurs, c'est tout près pour vous qui nous écoutez à Port-au-Prince en Haïti, c'est le festival Quatre Chemins. Bonjour Guy-Régis Junior.
Bonjour Pascal.
En plus d'être auteur et metteur en scène, vous dirigez ce festival qui en est à sa 16e édition et qui cette année se déroule dans une ambiance très électrique. C'est presque un euphémisme.
Ouais, très particulière, oui. En fait, l'année dernière, c'était déjà assez compliqué de réaliser le festival. Mais on ne s'attendait pas du tout à ce que cette année 2019, on allait encore devoir faire face à autant de difficultés. Mais en fait, c'est encore pire. Cela dit, nous avons tenu et nous tenons encore à maintenir le festival pour nous aider à démêler ce magma incompréhensible dans lequel nous sommes plongés depuis plus d'un mois.
Alors, pire que maintenir le festival, si j'ose dire, vous enfoncez le clou avec un festival plus long cette année, un mois.
En fait, ça fait 3 ans qu'on essaie d'allonger le festival. Et depuis 3 ans, on essaie avec l'Institut français des activités en amont. Et au fil des ans, donc 3e année, c'est devenu de vraies activités où les gens se viennent comme ils viennent au festival. Il y a du théâtre, il y a des conférences, il y a des projections de films. Cette année, on a la chance justement qu'il y ait une exposition avec l'artiste invité Michel Lemoine. Et en fait, il y a énormément d'activités, même dans ce en amont, sauf qu'on les fait avec l'Institut français, qui normalement a un programme annuel. Et ce que je voulais faire, et qui a été fait vraiment avec beaucoup d'enthousiasme, c'est qu'on monte avec eux leur programmation durant le mois de novembre, juste avant le Festival Quatre Chemins. Et on s'était entendu là-dessus il y a 3 ans. Et on continue à le faire. Et pour moi, c'est dans l'idée carrément d'allonger le festival, en fait.
Chaque année, vous donnez un titre et un thème nouveau. Cette année, c'est « Tous les hommes sont fous ». Ça donne le ton.
Complètement. Ah ben, exactement, c'est ce que tout le monde met. Malheureusement, on l'avait choisi bien avant. Et il y a une magnifique phrase de Marquis de Sade, « Tous les hommes sont fous et qui n'en veut point voir doit entrer dans sa chambre et casser son miroir ». Et on parle de cette phrase-là aussi pour parler d'un sujet beaucoup plus prenant. Ici, c'est qu'après le tremblement de terre, contrairement à ce qu'on pense, il y a eu énormément de dommages physiques, donc des gens qui sont touchés physiquement, mais il y a énormément de traumas psychiques et psychologiques aussi. Et ce festival se fait dans cette ville-là, à Port-au-Prince.
Sans donner l'intégralité de la programmation, quelques mots, beaucoup d'artistes haïtiens.
Beaucoup d'artistes haïtiens cette année, notamment Michel Lemoine, qui est metteur en scène, comédienne et aussi réalisatrice. Elle nous a fait 5 propositions, dont une exposition de tous les jeunes avec qui elle a travaillé. Michel, ce n'est pas seulement une artiste. Michel, c'est aussi la personne qui, à Focal, s'occupe de la section culturelle, qui s'occupe de la salle aussi de Focal. Et Michel a vu grandir tous ces jeunes comédiens dont on peut aujourd'hui dire, ben, si on a un milieu théâtre dynamique, c'est grâce justement à ces jeunes. Et tout ce qui se passe aujourd'hui, on peut dire que Michel vraiment fait partie de cela.
Pour découvrir donc la nouvelle génération du théâtre et de la culture haïtienne, le festival Quatre Chemins, il se déroule jusqu'au 7 décembre. Merci Guy-Régis Junior.
Merci Pascal, bonne journée.
Yeah. ma lueur d'espoir. Tu m'inspires, je veux t'embrasser. Tu es mon métronome.
Dobé Gnaoré, extrait de son dernier album Miziki. Dobé Gnaoré sur RFI et au festival Quatre Chemins le 21 novembre prochain. De la Côte d'Ivoire en Haïti en passant par l'Inde, c'est le tour du monde de vive voix aujourd'hui avec notre invité Kumaran Vallavan, auteur et metteur en scène de Chandala l'Impur et directeur du théâtre India Nostrum à Pondichéry. Comment est né ce désir d'adapter Roméo et Juliette? Dans le spectacle, vous faites référence à un fait divers qui date de 2016.
Exactement, c'est parce qu'en 2016, il y a eu un crime d'honneur, qu'on appelle les crimes d'honneur, ce sont des crimes qui sont commis au nom de la famille, au nom de l'honneur de la famille. C'était une histoire d'amour entre une jeune fille d'une certaine caste, on va dire d'une caste moyenne, et qui est tombée amoureuse d'un jeune homme qu'on a, en français on dit intouchable, mais en Inde on dit Dalit. Et cette histoire-là, ça, à un moment, après 8 mois de mariage, évidemment, ils se sont enfuis pour vivre leur vie. La famille avait envoyé des tueurs pour les tuer les deux. Et la jeune fille a survécu à ce meurtre. Et en fait, une caméra avait tout filmé. Du moment que tout le monde a vu l'image de ce meurtre, de ce crime d'honneur, tout le monde était extrêmement choqué. La société est très choquée. En même temps, c'était très difficile parce que c'est la société aussi. C'est un peu le crime de la société aussi. Donc, ça a été le point déclencheur, le point de départ de ce projet de création. Et quand le Festival de Francophonie m'a proposé à qui j'ai proposé ce projet, a dit oui, d'accord, on va vous aider à produire ce spectacle. Je me suis dit, ben voilà, c'est le bon moment pour le faire. Après, j'avais besoin d'un guide, juste un fait divers, ça ne me suffisait pas. C'est là que je me suis rendu compte que les personnages de Roméo et Juliette, pas l'histoire, parce que c'est pas forcément l'histoire qui m'intéressait, c'est les personnages de Roméo et Juliette pouvaient m'aider grandement. Et en fait, après, je suis allé rencontrer une jeune fille, Kauselia, qui est devenue une grande activiste maintenant. Et en fait, je me suis rendu compte que dans tout ce qu'elle racontait, mais c'est assez incroyable, tout ce qu'elle racontait, ce qui s'est passé, Shakespeare avait plus ou moins tout deviné. Par exemple, il y a une scène très intéressante. Quand Tybalt est mort, on voit tout de suite la mère de Juliette faire un discours un peu haineux. C'était très étrange. Moi, je me dis, mais ça devrait être le père qui devrait faire ce discours. C'est lui, le chef de famille. Mais quand je fais l'entretien avec Auxilès, je me suis rendu compte qu'en fait, dans sa vie aussi, c'est pas le père qui a parlé à ce moment-là. C'est la mère qui a fait un discours énorme, qui est allée à la police pour porter plainte, qui lui a carrément dit, donne-moi tout ce que tu portes sur toi, parce que c'est à moi. Donc, je me suis dit, Shakespeare avait une très belle intuition de dire, mais c'est la mère qui va être à ce moment-là un peu la gardienne des règles, des us et des coutumes qu'elle-même, elle subit en tant que femme.
Donc, Shakespeare est venu vous a aidé à faire ce spectacle qui est finalement très politique, puisqu'il dénonce très frontalement la question de la politique des castes. Est-ce que ça existe encore en Inde? Parce que la constitution indienne interdit les discriminations. Mais en même temps, j'ai le sentiment que la société est encore très très divisée.
C'est comme la constitution française qui dit il y aura une égalité entre les hommes. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a une vraie égalité? Ce sont des utopies que les grands hommes politiques ont essayé d'imaginer pour nous, d'essayer d'instaurer pour nous. Et on se rend compte que c'est pas parce que c'est écrit dans la constitution que c'est acquis. C'est un combat de tous les jours. Et ce qui est très intéressant, le système des castes, ça a une longue histoire en Inde, ça date pas d'hier. C'était un système religieux, parce qu'il faut le dire tout de suite, que ça vient de la religion hindouiste, et d'une certaine partie des... Parce que la religion hindouiste, ça veut rien dire, c'est une collection de croyances, et une des croyances, le brahmanisme, a instauré ce système des castes, qui a divisé le monde en quatre couleurs, et ceux qui n'étaient pas de ces quatre couleurs, en dehors, ils appelaient les chandalas. Et ça change, c'est devenu un système sociologique. Il faut savoir que parfois, même les chrétiens indiens pratiquent le système des castes. Évidemment, le système des castes n'a rien à voir avec le christianisme. Et parfois aussi, très rarement, les musulmans. Et la dernière transformation, le dernier avatar du système castique, il est devenu politique. À partir des années 90, des communautés se sont rendues compte que c'était extrêmement bénéfique pour eux de monter des partis politiques. Alors, ils ont monté des partis politiques, spécifiquement le parti d'une certaine communauté. Ce qui est devenu extrêmement un jeu dangereux parce que toutes les communautés ont commencé à faire des partis politiques pour les défendre. Alors, il y a une myriade de partis politiques qui ne représentent pas grand-chose, 1%, 2%, mais les politiciens qui sont évidemment très calculateurs ont voulu profiter de ces 2%, 1%, parfois, ils ont créé ces monstres, finalement, de partis politiques communautaires. Et souvent, aujourd'hui, ces meurtres-là, ces appels au meurtre sont souvent lancés par des petits partis politiques qui représentent les communautés. Mais je fais un parallèle très rapide. J'entends, en France, qu'on dit, il y a des partis politiques qui se montrent représentant la communauté. J'entends des gens qui parlent de l'identité française, de la culture française, des racines chrétiennes de la France. Je trouve qu'il y a le même essor. On commence à faire du groupe qui défend une certaine communauté. Et ben pour moi, c'est un peu la version actuelle du système des castes qui est en train de se pointer la tête en France.
En tout cas, c'est ce que vous racontez dans ce spectacle Chandala l'Impur, avec d'une côté la famille de Juliette qui s'appelle Janina dans le spectacle, dont un des membres, le frère, va créer un parti politique pour défendre les hautes castes. Et puis, en face de lui, il y a donc Jack, qui est la version indienne de Roméo, avec cette famille dont le père débouche les égouts. Est-ce qu'il y a une dimension documentaire dans ce spectacle ?
C'est un spectacle, il est totalement documentaire. Il est totalement documenté. Pas documentaire, documenté. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas faire un spectacle comme ça en Inde si ce n'est pas documenté. Parce que je peux me faire attaquer à chaque instant en disant, mais d'où tu sors ça ? Où tu as entendu ça ? Comment on peut pas dire des choses pareilles, parce que c'est un pays qui est c'est un pays très nationaliste. L'Inde, c'est un pays très nationaliste, même je viens de là-bas. C'est-à-dire que l'Inde n'aime pas trop qu'on donne une mauvaise image d'elle à l'extérieur. Elle aime bien qu'on montre ses formes traditionnelles, ses danses. Et pour moi, ce spectacle, c'était pas pour montrer une mauvaise image de l'Inde, c'est au contraire montrer la jeunesse indienne actuelle qui est en train de transformer ce pays, en train de transformer. Je dirais, c'est le rêve d'une belle Inde. C'est pour ça que j'ai préféré finir le spectacle avec ce témoignage à la fin de Kausalya qui dit ce qu'elle a fait, qui a porté plainte contre ses parents, qui a fait condamner son père, qui ouvre une nouvelle porte, en fait, qui s'appuie sur les lois qui existent, qui s'appuie sur la Constitution pour faire condamner ses parents.
Mais dans votre spectacle, Kumaran Vallavan, par exemple, votre Roméo et votre Juliette se rencontrent dans un cinéma érotique. On est assez loin de Shakespeare. Est-ce que c'est autorisé, entendu, entendable en Inde ou c'est tabou?
Déjà, on peut pas monter Roméo et Juliette sans penser à ces trois scènes mythiques. La scène du bal, la scène du balcon et les morts des amants. C'est-à-dire, c'est une espèce de concours. Si on n'arrive pas à voir ces scènes-là, je pense que c'est extrêmement difficile de monter Roméo et Juliette. Moi, la question que je me suis posée, d'accord, Shakespeare fait ça dans son univers à lui, dans son monde à lui. Mais où est-ce que, quels sont ces lieux où ils peuvent vraiment se rencontrer? Cette espèce de déclic peut avoir lieu. Eh ben, en fait, mes comédiens, les comédiennes qui ont travaillé sur le spectacle, ont fait cette recherche autour d'elles pour demander est-ce qu'il y a eu des jeunes filles qui sont déjà allées voir un film érotique dans une salle de cinéma déguisée en homme. Et bien, en fait, oui. Et on s'est dit, oui, alors c'est possible. Vous savez, la vie, elle a beaucoup plus d'imagination que nous, les artistes. Hein. Alors, on a imaginé ça, pourquoi ? Parce que la salle de cinéma, c'est un peu le monde où la jeunesse indienne découvre l'amour. Vous savez, la plupart des films Bollywood parlent d'amour, mais de façon extrêmement, je dirais, surréaliste et magique. Et je trouvais que le lieu qui nous, au fond, fait rencontrer Roméo et Juliette, Jack et Janani, c'était une salle de cinéma.
Chandala l'Impur de Vallavan Kumaran avec Jack, Janina, un amour qui est une sorte de cupidon tout fleuri, absolument irrésistible, et puis Love Guru.
Juliet, Roméo et Juliet, Aragana or Kadal Kadai, Kandipa Jack. நன்றி ஜாக். உங்கள் காதல் வெற்றி பெற இந்த லோகருடைய வாழ்த்துக்கள். நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது ரேடியோ அமோர் 93.1. கேளுங்க கேட்டுக்கிட்டே இருக்க. இதோ அடுத்ததாக ஒரு பாடல் உங்களுக்காக.
Love Guru qui donne ses conseils en amour sur Radio Amour 93.1 FM. Je vais penser à candidater pour Radio Amour. C'est un spectacle Vallavan Kumaran en tamoul, donc on l'a dit surtitré. C'est une langue très mélodieuse.
Il faut savoir que c'est une des langues les plus anciennes au monde. Et c'est une langue extrêmement poétique, extrêmement riche dans ses transformations. C'est une langue les mots se transforment sans arrêt pour s'adapter. Et c'est une langue très ancienne, très... En fait, il faut savoir que le tamoul ne fait pas partie des langues indo-européennes. Parce que le français et le hindi sont dans la même famille de langues, alors que tamoul, c'est dans une autre famille de langues qu'on appelle les langues dravidiennes. C'est une langue absolument magique, avec une très grande littérature classique, mais qui souffre aujourd'hui de ne pas avoir une littérature contemporaine soutenue et lu par le public. Évidemment, le théâtre contemporain tamoul aussi en souffre.
Alors, dans la version de Shakespeare, il y a la mort des deux amants, mais dans votre version, Chandala l'impur, c'est une série de crimes d'honneur entre ceux qui vivent donc à la colonie, le quartier des intouchables, et ceux qui vivent dans les quartiers plus chics. Donc là, on est vraiment dans le théâtre documenté dont vous parliez. C'est une histoire tragique, il y a encore beaucoup plus de morts que dans Shakespeare, mais en même temps, c'est un spectacle assez réjouissant, qui est très coloré. Est-ce que c'est ça l'Inde? Est-ce que c'est ça l'ADN indien?
Pour moi, c'est l'ADN indien. C'est-à-dire que c'est un pays où on peut voir une très grande misère dans la rue, et à côté, on peut voir une sculpture magnifique. On peut voir juste après un objet extrêmement moderne, juste après un objet qui vient d'un musée. Donc c'est un pays où il n'y a pas de place pour chaque chose, tout se mélange. On peut entendre des bruits gênants, en même temps une magnifique musique. On va marcher dans la rue, on va être à côté d'un temple, on va entendre les bus, les voitures, et d'un coup on va entendre une voix qui chante dans un temple. C'est un pays multicolore, je ne sais plus qui a dit ça, c'est une espèce de harmonie complètement désordonnée, ou un désordre absolument harmonieux.
Alors il y a, sans être spécialiste du théâtre indien, on le connaît notamment par Ayan Mushkin, par des gens comme Peter Brook, etc. Il y a des formes très codifiées de théâtre. Est-ce que votre spectacle, Kumaran Vallavan, correspond à une tradition théâtrale indienne spécifique?
Moi, je ne correspond à aucune tradition, mais on va dire que c'est le théâtre contemporain indien. En Inde, on dit même théâtre moderne. En même temps, nous, aujourd'hui, on ne peut pas faire du théâtre sans nous appuyer sur nos trésors, sur nos racines, qui est le théâtre. En Inde, il y a trois types de théâtre. Il y a le théâtre contemporain, évidemment. Il y a le théâtre qu'on appelle traditionnel, le Kathakali, toutes ces grandes formes de théâtre qu'on voit souvent à l'étranger. Il y a une autre forme qu'Ariane Mouchkine a fait connaître par son spectacle Une chambre en Inde, ce qu'on appelle les formes folkloriques. Mais en anglais, on dit folk theater, mais folklorique, c'est un peu péjoratif en français. On va dire théâtre populaire. Ce sont des théâtres qui sont joués dans les villages par des gens. On va dire, et une des formes de théâtre dont on se sert un peu dans le spectacle Chandala l'impur, c'est une forme de théâtre de marionnettes. Ce sont des marionnettes c'est une troupe de théâtre de marionnettes qui ont arrêté de jouer il y a 10 ans. Donc les marionnettes étaient dans des boîtes dans un jardin, qu'un grand maître de marionnettes m'a demandé de les prendre dans notre théâtre à nous à Pondichéry. Ce que j'ai fait, donc ces marionnettes-là étaient dans des boîtes assez abîmées. Vous savez, les acteurs, c'est comme des enfants. Alors, quand ils commençaient à improviser, ils avaient envie d'amener ces marionnettes sur scène. Et ils ont finalement réussi à amener ces marionnettes sur la scène de Chandala l'impur.
Il y a en effet des marionnettes. Il y a aussi un côté comédie musicale, presque quelque chose de Bollywood dans ce spectacle Chandala l'impur. Kumaran Vallavan, vous êtes actuellement en France avec votre spectacle Chandala l'impur, mais vous êtes installé à Pondichéry, donc en Inde. Vous faites du théâtre pour qui? Sachant que vous avez créé votre compagnie en 2007, India Nostrum, et que vous nous l'avez dit au cours de cette émission, c'est difficile de faire du théâtre.
Raison de plus d'y aller et de faire, parce que c'est pas parce qu'il y a... En 2027, quand je suis allé en Inde... après.
En 2027
En 2007, quand je suis allé en Inde, après avoir passé 3 ans au Théâtre du Soleil, avec vraiment un rêve de monter une troupe de théâtre et un lieu, je suis allé rencontrer un des messieurs de l'époque qui faisait du théâtre en Inde, au Tamil Nadu depuis 30 ans, qui n'arrivait absolument pas à vivre de ça. Je suis allé le rencontrer, il m'a dit, mais vous êtes fou, retournez à Paris, allez travailler au Théâtre du Soleil, vous pourrez au moins faire du théâtre dans des bonnes conditions, retournez, repartez. Et moi, je lui ai dit, vous savez, je suis d'accord avec vous, c'est une espèce de désert, le théâtre contemporain, moderne, tamoul, et un peu désertique. Mais vous avez essayé, vous avez sacrifié, vous allez peut-être même mourir sur cette terre. Et peut-être que tout ce que je vais essayer d'entreprendre aussi vont mourir dans ce désert-là. Mais je pense que nous sommes un peu les ingrédients. Aussi, nous allons devenir des ingrédients qui va un jour, un jeune va venir, va planter quelque chose et ça va pousser. Et je pense que c'est ce travail-là, il faut le faire, parce que personne ne va le faire sinon. Et à partir du moment, pendant 12 ans, voilà, depuis jusqu'à 2019, je n'ai cessé de travailler, de faire des spectacles en même temps qui racontent l'Inde, pas du spectacle pour un public ailleurs que le public indien, développer un public, développer un lieu. Jusqu'en 2015, c'était extrêmement difficile. C'était vraiment, je veux dire, tous les gens qui travaillent avec moi, ils ont abandonné leur travail d'ingénieur ou de consultant pour devenir comédien, pour gagner 100 fois moins. Et en 2015, Ariane Mouchkine est venue pour faire une école nomade à Pondichéry et elle a choisi notre lieu pour faire cette école. Et depuis, c'est créé...
C'est un ancien cinéma, c'est ça ?
C'est une ancienne salle de cinéma de l'époque coloniale. La salle s'appelle la salle Jeanne d'Arc, qui a d'ailleurs brûlé une fois. Donc c'est
la bien nommée.
Voilà, le théâtre. Un an après, le théâtre avait complètement brûlé. En 2015, quand Ariane est venue, on a vraiment construit une espèce de pont invisible entre Pondichéry et Théâtre du Soleil à Paris, parce que nous sommes venus trois fois. Donc la première fois, on est venu en 2017 présenter trois spectacles, ce qui a donné lieu à la création de Chandala L'Empire en 2018. Et là, on est revenu avec Chandala L'Empire en 2019. Et ça ne va pas s'arrêter. Je trouve que c'est très beau, cet échange que Ariane a réussi à instaurer entre Pondichéry et l'Inde, du coup, et Théâtre du Soleil. Parce qu'on est vraiment dans un rapport d'échange de gens qui viennent dans les deux sens. Une chambre en Inde est venue de Pondichéry, parce qu'elle a commencé les répétitions d'une chambre en Inde à Pondichéry, dans notre théâtre, au Théâtre du Soleil, et nous sommes venus aussi avec. C'est vraiment, je trouve, quelque chose que seule une personne comme Ariane Mouchkine est capable de mettre en place.
Alors, sur ce pont invisible, mais très visible, quand on voit vos spectacles, le vôtre et celui d'Ariane Mouchkine, il y a aussi quelque chose de l'ordre de la francophonie, parce que vous êtes un fervent partisan, ardent défenseur de la francophonie. Il y a d'ailleurs, depuis l'an dernier, le Festival des francophonies de Pondichéry, dont vous n'êtes pas le seul acteur, mais vous y avez participé.
Ben c'est même, c'était Ariane, l'ambassadeur de français de l'époque, et Marie-Agnès.
Sylvestre, l'ex-directrice
du festival de Limoges. C'est ensemble, ces trois personnes, j'étais présent, on était quatre, on a eu cette idée de faire un off du festival de francophonie de Limoges, parce que Pondichéry, c'est vraiment la ville, l'unique ville, presque l'unique ville francophone de l'Inde, immense. C'est une petite fenêtre, je trouve que elle est très belle, cette petite fenêtre à travers laquelle toute la culture française peut échanger avec l'Inde. Et je trouve que c'est dommage de ne pas utiliser cette fenêtre-là pour échanger les artistes, pour faire des rencontres et aussi pour développer la francophonie.
Merci beaucoup, Kumaran Vallavan. Chandala L'Impur, c'est donc au Théâtre du Soleil à la Cartoucherie jusqu'au 17 novembre. Et vous serez aussi le 9 décembre à Tunis au Festival de Carthage. Merci à tous. Pascal Paradou à la présentation, programmation Véronique Durand, Guillaume Ploquin à la réalisation. À demain.